Zone de Contact, une émission de Spoutnik Afrique.
Bonjour Bamako, bienvenue sur Spoutnik Afrique. Je m'appelle Anthony Lefebvre et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de mon émission Zone de Contact. Je salue les auditeurs et les auditrices de Maliba FM qui nous écoutent sur le 99.5 FM depuis Bamako. Au programme aujourd'hui, un milliardaire africain a fait un don généreux à des étudiants nigérians, l'Union islamique africaine cherche à élaborer des mécanismes de soutien aux Palestiniens et l'Afrique du Sud championne du monde de rugby. Comment les technologies russes peuvent permettre à l'Afrique d'améliorer l'élevage et la production de lait ? Une directrice d'une entreprise malienne spécialisée dans l'insémination artificielle et la transplantation embryonnaire nous présentera les bénéfices de cette contribution russe dans le domaine. Le Mali souhaite intensifier sa production agricole. Un chercheur de l'Institut de l'économie rurale malien nous exposera les projets de Bamako dans ce domaine. Le secteur de la médecine malienne s'intéresse au marché russe. Un physiothérapeute malien nous présentera les qualités de ses produits en vue de les exporter en Russie. Comment garantir la sécurité et la prospérité pour le continent africain ? Le président de l'Union Paix et Sécurité africaine nous donnera des éléments de réponse et nous présentera comment la coopération avec la Russie et d'autres partenaires pourra y contribuer. Les échanges commerciaux entre la région russe de Penza et le continent africain sont en croissance. Le ministère de l'Agriculture de cette région fera le bilan des exportations de produits agricoles vers l'Afrique. Le rideau s'est baissé sur l'édition 2023 du Congrès international de l'agriculture Asia Expo. Le chef de cet événement nous en présentera le bilan, marqué particulièrement par une présence de délégations africaines. C'est un don qui mettra du beurre dans les épinards de nombreux étudiants d'une université nigériane. 750 étudiants de l'université Augustine ont reçu chacun 1 million de naira, soit environ 1 269 $. Le donateur est Femi Otedola, un investisseur milliardaire nigérian qui est par ailleurs chancelier de cette université nigériane. Sur les réseaux sociaux, il a espéré que son geste aidera les parents des étudiants à traverser cette période difficile. Cette contribution sous forme de bourse a été versée aux 250 étudiants de première année et aux 500 qui ont décidé de revenir étudier à l'université Augustine. Monsieur Otedola a ensuite encouragé les étudiants à devenir des employeurs de main-d'œuvre en soulignant la nécessité de développer un esprit d'entreprise dans un pays qui privilégie souvent la recherche d'emploi par rapport à la création d'emplois. Enfin, il s'est engagé à mettre la main au portefeuille pour l'université Augustine. 250 millions de naira, soit un peu plus de $316 000, seront consacrés à l'ameublement de la faculté d'ingénierie dont les travaux se sont récemment achevés, à l'électrification du campus ainsi qu'à la mise en place d'un nouveau générateur de secours. Pour rappel, ce genre de geste par des milliardaires est monnaie courante. En 2021, l'entreprise du philanthrope Aliko Dangote avait injecté plus de 10 milliards de naira dans le secteur de l'éducation au Nigeria. L'Union islamique africaine cherche à élaborer des mécanismes de soutien aux Palestiniens alors que les bombardements israéliens continuent dans la bande de Gaza. Selon des médias sénégalais, les membres d'une délégation de l'Union ont présenté les efforts déployés par cette organisation lors d'une rencontre avec l'ambassadeur de l'État de Palestine à Dakar. Ces mécanismes de soutien à la résistance palestinienne ont été discutés lors d'un colloque culturel organisé récemment par l'UIA. Il s'agit notamment d'une aide financière à Gaza ainsi que d'une prière pour ses défenseurs. Un grand événement devrait également se tenir le 1er novembre à la mosquée Medina Bey à Kaolack, au Sénégal. De plus, un rassemblement est planifié par l'Union islamique africaine à Nouakchott au début de novembre, en marge de la visite du président de l'Union, Cheikh Mohamed Mouhamed Mahi Ibrahim Niass, en Mauritanie. Il faut noter que le bureau de l'Organisation mondiale de la santé dans le territoire palestinien a déclaré ce 30 octobre qu'il était impossible d'évacuer en toute sécurité les patients des hôpitaux de Gaza sans mettre leur vie en danger. Les représentants de l'organisation ont ajouté que les pannes de carburant affectent le fonctionnement des établissements de santé et des ambulances. Dans le même temps, l'ambassadeur israélien à Moscou a fait savoir auprès de Spoutnik que Tel Aviv n'avait pas le projet de raser la bande de Gaza. Cependant, il a souligné que son pays avait l'intention d'éliminer le Hamas et de faire revenir ses prisonniers. Selon le diplomate, d'un point de vue militaire, Israël est prêt à élargir le conflit, mais il n'a pas d'intérêt pour cela. La Coupe du monde de rugby vient de s'achever en France et c'est l'Afrique du Sud qui a soulevé le trophée pour la 4e fois de son histoire. C'est également la 2e d'affilée pour les Springboks. Au Stade de France, ils ont battu la Nouvelle-Zélande sur le score de 12 à 11. Fait curieux, c'était contre les All Blacks en 1995 que les Sud-Africains avaient remporté leur premier trophée, à domicile, devant Nelson Mandela, qui était devenu le premier président sud-africain noir un an plus tôt. Pour rappel, les Sud-Africains sont désormais la nation la plus titrée en rugby, avec 4 titres. Ils devancent les Néo-Zélandais qui en comptent 3, l'Australie avec 2 titres, et l'Angleterre auréolée d'une seule victoire. Mesdames, Messieurs, vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM depuis Bamako sur le 99.5 FM. Bienvenue si vous venez tout juste de nous rejoindre. Le congrès international de l'agriculture Asia Expo s'est tenu à Sochi du 25 au 27 octobre dernier. Cet événement est l'un des plus grands lieux de coopération internationale dans le domaine du complexe agro-industriel. Plus de 10 000 invités du monde entier ont participé au forum, dont des représentants de grandes entreprises de Russie, d'Asie, d'Afrique et du Moyen-Orient. Des tables rondes et des plateformes de discussion étaient organisées pour débattre du développement des agro-industries dans le contexte d'une réorientation globale des marchés. Dans une émission précédente, vous avez pu écouter le conseiller technique du ministre malien de l'élevage et de la pêche qui avait fait le déplacement à Sochi. Des entreprises maliennes étaient également présentes et très intéressées pour découvrir le savoir-faire de la Russie dans l'agriculture. Fatoumata Kamara est directrice du Centre d'insémination artificielle et de transplantation embryonnaire. Elle a fait le déplacement dans le sud de la Russie afin de venir chercher les technologies permettant d'améliorer la qualité des cheptels maliens. Elle s'est confiée au micro de mon collègue Kamal Louage de l'Afrique en marche. Écoutons-la tout de suite.
Vous êtes directrice d'une société qui s'appelle...
Le Centre d'insémination artificielle et de transplantation embryonnaire.
Embryonnaire, oui. Au Mali.
Oui, au Mali. Alors, un centre privé.
Un centre privé. Mm-hmm. C'est très important parce que c'est une technologie très avancée. Et moi, j'étais surpris quand vous m'avez parlé de ça. Mm-hmm. Alors, ma première question, justement, quelles sont les activités de votre centre? Qu'est-ce que vous faites comme travail? Et certainement, si j'ai bien compris aussi, vous travaillez dans l'amélioration des cheptels et de la qualité des cheptels dans l'élevage.
Bien sûr, qui dit insémination artificielle parle de l'amélioration génétique des animaux. Donc, on fait le croisement avec les races exotiques pour augmenter la production de nos animaux. C'est ça.
D'accord. J'étais surpris parce que c'est une technologie très, très avancée, cette insémination artificielle. Alors, comment vous avez fait pour installer un tel laboratoire au Mali?
OK. Bon. Je dirais que le centre d'insémination que je gère, c'est le premier centre d'insémination artificielle au Mali.
Au Mali.
Avant, c'était... On faisait l'insémination artificielle, mais il n'y avait pas de centre. C'était seulement des petites cellules, sinon une petite cellule d'insémination qui était gérée par d'autres nationalités. Mais aujourd'hui, grâce à la création du centre d'insémination, les activités d'insémination sont élargies dans tout le Mali. L'initiative de créer cette centre m'est venue quand j'ai terminé les études en ex-Union soviétique.
D'accord.
En faisant mes pratiques, puisque je suis, je n'ai pas dit ça, je suis ingénieur en zootechnie. Donc, lors des pratiques dans les fermes, j'ai vu la production des animaux et la gestion des fermes ici. Donc, j'ai eu l'initiative, juste après les études, de créer un centre d'insémination, en fait, d'améliorer la productivité de nos animaux.
D'accord. Et depuis quand vous avez créé ce centre?
Le centre a été créé en décembre 1998.
1998?
Oui.
Ça fait déjà un bon moment.
Bien sûr. J'ai terminé les études en 95.
D'accord. Bien. Alors, allons dans le fond du travail de votre centre. Comment analysez-vous d'abord la situation de l'élevage? Qu'il soit bovin ou
bovin, caprin,
caprin ou volaille même peut-être et donc au Mali et quels sont les travaux que vous menez justement pour améliorer sa qualité ou voir corriger des problèmes qui existent dans sa situation actuelle.
Ok, il faut reconnaître que le Mali, c'est un grand pays d'élevage. Le cheptel est vraiment important, que ce soit bovin, ovin, caprin et la volaille. Mais la production est un peu faible. Les vaches ne produisent pas beaucoup de lait. Mais il faut souligner qu'on a des races qui peuvent produire plus de lait. Et la qualité du lait aussi est vraiment supérieure à la qualité de lait des vaches qui produisent encore plus de lait, deux fois, trois fois plus de lait que nos vaches.
D'accord. Donc les vaches au Mali ne produisent pas beaucoup de lait. En revanche, la qualité du lait est supérieure.
La qualité du lait est supérieure. Maintenant, puisque au Mali, on travaille surtout sur la quantité de lait produite.
Oui, oui.
C'est surtout sur la quantité de lait maintenant. Donc, on fait le croisement avec les races qui donnent plus de lait. Pour le moment, on n'a pas encore fait la sélection sur la qualité du lait.
D'accord.
Maintenant, on fait le croisement pour la quantité du lait.
D'accord.
OK.
D'accord. Bien. Et est-ce que vous êtes arrivé justement à augmenter la quantité du lait et à produire des races capables de produire beaucoup plus de lait? Et disons, est-ce que la production actuelle dans le pays suffit à la demande du marché local?
Bon, ça, c'est pas facile. On a pu augmenter la production du lait parce que des vaches qui donnaient 3-5 litres de lait. Avec le croisement, les métis de ces vaches-là peuvent donner jusqu'à 20 litres de lait par jour.
Wow.
Oui.
Donc, pratiquement quadruplé.
Oui, ça, c'est possible. Surtout si on fait le croisement avec la Holstein, qui est une race laitière. Donc, les demi-sang Holstein peuvent donner vraiment une quantité importante de lait. Importante. Et ces demi-sang s'adapte plus ou moins à notre climat, ça va. Mais au-delà des 2100, on a des problèmes. Parce que si on se rapproche trop des arts exotiques, les animaux ne supportent pas bien notre climat.
D'accord.
C'est pour cela, moi j'ai décidé de venir chercher la semence des rouges des steppes qui a fait déjà ses résultats au Mali.
Les rouges des steppes ici en Russie?
Oui.
D'accord. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot sur cette race-là et comment vous pensez justement croiser ces gènes avec celles des vaches locales?
Le croisement avec des rouges steppes a donné ses preuves déjà au centre de recherche agronomique de Sotiba. Parce que depuis les indépendances, on avait ces semences et puis même des races vivantes, des taureaux vivants qui étaient amenés au Mali, et puis même la race pure supportait le climat à plus forte raison le résultat des croisements, que ça soit les demi-sang, les trois quarts, il n'y avait pas de problème. Et ça augmentait aussi la production laitière.
D'accord. Alors, de ce point de vue, comment jugez-vous la technologie russe? Est-ce que c'est une technologie performante? Est-ce que c'est une technologie qui a fait ses preuves? Peut-elle apporter un plus à l'Afrique dans ce domaine?
Oui, je trouve que la technologie russe est très performante et peut rapporter beaucoup de choses à l'Afrique. En tout cas, chez nous, on a déjà vu les preuves.
D'accord.
Au Mali, on a utilisé plusieurs races, mais les races venant de la Russie sont plus adaptées et supportent mieux notre climat que d'autres races de bovins.
Alors, pour la situation de l'élevage en général au Mali, comment vous la jugez? Et pour les autres, au-delà de l'élevage bovin, comment vous la jugez? Et comment voyez-vous cette chose dans le cadre de votre travail pour améliorer l'économie du pays, étant donné que l'élevage, si j'ai bien compris tout à l'heure dans votre intervention, vous avez noté qu'il faisait au moins 30% des rentrées en devises du pays.
Oui. Bon, qui parle de croisement, d'amélioration, parle d'augmentation.
Oui.
Donc, si c'est une augmentation de lait, ça veut dire que les revenus aussi seront augmentés. Il y a ça. Et ce que moi je vois de mon côté, mon avis personnel, l'amélioration génétique au Mali, surtout dans les zones rurales, les animaux sont surtout dans les zones rurales, l'amélioration génétique fait que on peut diminuer l'exode rural des jeunes. En faisant quoi? Quand on améliore les animaux, la production va augmenter. Quand la production augmente, on est obligé de faire améliorer l'alimentation. En améliorant l'alimentation, on est obligé de créer des usines de fabrique d'aliments.
L'aliment du bétail. Oui.
L'aliment du bétail. Et en plus, si la production de lait est augmentée, on est obligé de faire des usines de transformation de lait et qui va créer encore des emplois. Et enfin, c'est le développement des zones rurales. Et si les zones rurales sont développées, ça veut dire qu'il n'y aura plus d'exode rural.
Et donc, nous avons donc les... vous, toute l'économie du Mali se trouve à, entre les différents brins de l'ADN que vous changez.
Oui, oui. Je ne peux pas dire tout, mais en partie.
En grande partie.
En grande partie, oui.
Oui. Non, et là, j'ai vu que vous avez mis justement un schéma, vous schématisez ce processus de la façon avec laquelle ce changement justement dans la qualité des animaux, dans leur capacité à produire, comment cela pourrait engendrer toute une dynamique de développement et faire en sorte que les jeunes Africains qui vivent dans les villages éloignés fassent leur Californie chez eux. Ils ne vont pas traverser la mer sur des barques de fortune en mettant leur vie en danger vers l'Europe.
Mais,
alors, pouvez-vous nous expliquer tout ça?
Mais dans la ville, là, tout est lié. Tout est lié. Même si on prend l'exemple sur une vache. Tu as une vache, tu insémines. Ta vache donnait 2 litres. Tu as inséminé, tu as fait le croisement avec une race amélioratrice. Et le produit va te donner 20 litres par jour, et non 2 litres. Automatiquement, les revenus vont augmenter quand tu vends le lait là. Et puis, pas seulement le lait, même la viande.
Ouais.
Donc, si la production augmente, les revenus augmentent. Si la production augmente, on a plus besoin d'aliments pour alimenter cette vache.
Ouais.
Imaginez, vous avez si c'est une centaine de vaches, vous n'allez plus faire la production à la main.
Ouais.
Vous allez penser maintenant à des usines de fabrique d'aliments. Ça, c'est pour l'alimentation. Et maintenant, même pour le lait, on ne peut pas conserver combien de litres de lait comme ça. Il faut transformer pour la transformation. Donc, il faut des unités de transformation de lait. Et vous voyez combien d'emplois ça va créer.
Et de formation aussi.
Et de formation. Et petit à petit, c'est des usines qui vont se créer. On va installer des usines. Et s'il y a des usines, c'est des gens qui vont travailler là-bas.
Oui.
Donc, si tu sais que tu cherches à l'extérieur, tu achètes chez toi, tu ne vas plus partir. Donc, les jeunes vont rester pour travailler.
Absolument.
Donc, obligatoirement, les zones rurales seront développées.
D'accord. Alors, est-ce que vous avez des répercussions du travail que vous faites dans les autres pays d'Afrique? Est-ce que cela peut servir d'exemple et de phare à d'autres pays d'Afrique pour justement relever ce problème-là de l'alimentation et de l'autosuffisance en alimentation?
Je pense que tous les pays africains ont besoin de ça. Tous les pays africains. C'est pas seulement le Mali. On a pratiquement les mêmes problèmes. Donc, ce qui se passe au Mali, ça se passe dans presque tous les pays africains.
D'accord. Ben, je vous remercie beaucoup pour cet entretien et je ne peux que vous souhaiter tout le succès.
Merci.
Et une bonne coopération avec les partenaires russes.
Merci beaucoup.
Je rappelle que vous avez déjà signé un accord lors de ce forum avec un partenaire russe. Pouvez-vous nous en dire un mot avant de conclure?
Oh, ok, bon, c'est vrai, lors du forum, j'ai signé un accord avec le centre de sélection et d'insémination de Moscou.
Okay.
Donc, j'ai connu ce centre depuis très longtemps. J'ai connu ce centre, j'ai même visité le centre Mais après, vu la situation politique du pays, on avait perdu les contacts. Et maintenant, lors du forum, j'ai profité pour les chercher et puis renouer les contacts. Et ça a donné vraiment de bons résultats parce qu'on a pu signer un contrat.
C'était Fatoumata Camara, directrice du Centre d'insémination artificielle et de transplantation embryonnaire du Mali pour Spoutnik Afrique. Elle a parlé de la situation de l'élevage et de la production du lait au Mali. Elle a ensuite exposé comment les technologies russes peuvent permettre au Mali d'améliorer cette filière agricole. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, vous écoutez Spoutnik Afrique sur le 99.5 FM depuis Bamako. Bienvenue à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. À Sotchi, l'Institut d'économie rurale du Mali était présent à la recherche d'investisseurs. Créé en 1960, cette institution de recherche a pour mission de contribuer à la productivité agricole. Elle vise à préserver les ressources naturelles tout en augmentant les revenus des agriculteurs et en améliorant la sécurité alimentaire dans le pays. Au micro de Spoutnik Afrique, Cheikh Amadou Tidani Diara, chercheur au sein de l'Institut d'économie rurale du Mali, a présenté les forces de l'élevage au Mali ainsi que le potentiel de valorisation du secteur agricole malien. Écoutons-le tout de suite.
Le grand fleuve qui arrose pratiquement une bonne partie du pays. Et par rapport à cette potentialité, nous avons des millions d'hectares irrigables. Et les principales cultures, c'est surtout le riz. Donc, depuis un bon moment, la recherche a travaillé pour améliorer la production de riz. Mais il se trouve que je vais parler comme le commun du mortel malien. Ce riz produit au Mali ne suffit pas. Ça veut dire qu'on a besoin d'une production intensive. On a besoin que le riz malien arrive à couvrir tous les besoins des personnes. Donc, le partenariat, chercher des investisseurs qui viendront intervenir dans ce domaine, ça nous importe. Donc, il y a encore, depuis un certain moment, on importe du sucre. On a le sucre.
Le sucre,
voilà.
Oui.
On produit, on a une usine de production de sucre à la sucre, et puis, mais jusqu'à présent, la production est encore insuffisante. Si on a de la terre illégale, il suffit d'intensifier les cultures et une production de canne à sucre pour avoir ce sucre. Donc, on a ce besoin. Et on cherche des partenaires par rapport à ça. Dans le domaine de l'élevage, le Mali est là, pratiquement le deuxième pays en Afrique de l'Ouest.
Ouais.
En matière d'effectifs de cheptel.
Mais il y a combien de cheptels?
Comme il a deux têtes. Il y a près de 12 millions, 12 millions de bovins. Il y a à peu près plus de 35 millions de petits ruminants, c'est-à-dire de moutons, de chèvres. Et il y a plus d'un million d'effectifs de chameaux, de dromadaires.
D'accord.
Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Depuis un certain moment, le pays s'investit dans l'augmentation de la production. Les productions animales, en lait, produits laitiers et puis la viande. Pour la viande, comme il a dit, on a seulement besoin de valoriser ce qu'on exporte, que ce soit des aliments simples, et il faut même de la viande. Maintenant, le principal, la contrainte au niveau des productions animales, surtout les ruminants, c'est qu'il y a, avec les effets changements climatiques, il y a un développement de l'élevage périurbain. C'est dans cet élevage qui est assez moderne où on retrouve le matériel génétique amélioré. Soit des élevages de races productrices en élevage pur, soit en croisement.
Excusez-moi, vous comprenez?
Soit en croisement. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a la contrainte d'alimentation. Et donc, on s'est dit, avec ce qu'on a comme superficie, est-ce qu'il n'est pas mieux d'intensifier les cultures fourragères?
Ouais.
Pour résoudre le problème d'alimentation.
Ouais.
Et l'une des voies pour résoudre le problème des contraintes alimentaires en matière d'élevage, c'est d'intensifier les cultures fourragères. On a des
cultures
fourragères.
Fourragères.
C'est-à-dire que des aliments qu'on cultive, mais qu'on donne uniquement aux animaux. Donc, en fait, c'est ce qui va surtout aider les éleveurs à plus valoriser leur production. Donc, et au niveau du ministère de l'élevage et au niveau de la recherche, il y a des activités, des efforts qui sont fournis dans ce sens. Et donc, actuellement, on a besoin aussi de partenaires pour nous aider à intensifier cette culture fourragère. Il y a plusieurs variétés. Il y a des cultures des graminées, c'est-à-dire il y a des légumineuses. Donc, on a on s'est donné le temps de produire beaucoup de semences. Mm-hmm. Maintenant, il s'agit maintenant...
Avec d'accord. Donc, le Mali produit les semences.
Les semences.
Et il n'a pas besoin de...
Non, des semences qu'on exporte.
Oh.
On exporte. Il y a des pays voisins qui viennent payer des semences de culture fourragère chez nous.
D'accord.
Hein? Donc, c'est un peu ça. Même, il y a certaines espèces, races, par exemple, dans le domaine de l'élevage, on a mis au point une race de volaille qui s'appelle le Wasachien, qui est exporté dans pratiquement tous les pays. Les gens viennent payer parce que c'est une race qui est très résistante. Hein, c'est un produit de recherche. On a travaillé, on a amélioré une race locale avec une race génétique qui nous donne bon rendement. Donc, dans tout le système d'élevage, la contrainte qui nous donne, c'est l'alimentation. Comment les partenaires peuvent aider le Mali à trouver une solution? Intensifier les cultures fourragères, intensifier encore les productions alimentaires, les productions agricoles. Pour s'asseoir dans le domaine des cultures sèches, des cultures céréalières, et même dans le domaine des maraîchages. Donc, d'accord, c'est tout ça. Aujourd'hui encore, on importe le l'oignon, le Mali, on importe la pomme de terre. Les productions sont dérisoires. On est obligé de faire appel. Alors qu'on a des grandes superficies, si on a trouvé des investisseurs, on peut produire pour satisfaire nos besoins nationaux et on peut exporter.
C'était Cheikh Amadou Tidiani Diarra, chercheur au sein de l'Institut d'économie rurale du Mali pour Spoutnik Afrique. Il a présenté les qualités du secteur de l'élevage malien et mis en avant le potentiel de développement de la filière agricole malienne.
Suivez Spoutnik Afrique sur Maliba FM. Du lundi au vendredi à 19h, Spoutnik décryptera l'actualité africaine et internationale dans ses émissions Zone de Contact et Afrique en Marche. Politique, économie, défense, diplomatie. Des spécialistes de renom vous donneront une vision alternative à celle proposée par les médias mainstream. Du lundi au vendredi à 19h sur Maliba FM.
Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, je vous rappelle que vous écoutez Spoutnik Afrique depuis Bamako sur le 99.5 FM. Bienvenue à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre pour l'émission Zone de Contact, présentée par Anthony Lefebvre. Le secteur de la médecine malienne avait également fait le déplacement à Sotchi. Et pour séduire les consommateurs russes, il peut compter sur sa fabrication de produits naturels. Le physiothérapeute Lassana Sidi Moulay Kafou est un spécialiste malien de la médecine traditionnelle. Il est venu en Russie pour présenter les bienfaits de ses produits afin de les exporter sur le marché russe. Au micro de mon collègue Kamal Louadj de l'émission L'Afrique en Marche, il a présenté ses produits et espéré une coopération avec la Russie dans de nombreux secteurs, y compris dans celui de la médecine. Écoutons-le tout de suite.
Monsieur Moulay Kafou, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien.
Merci.
Pouvez-vous nous dire quelques mots sur votre entreprise, les produits qu'elle met sur le marché et leur utilité par rapport à la santé?
Bon, d'abord, je me présente. Ici, Moulay Lassana Sidi. Ici, psychothérapeute agréé d'État. Et je suis THV. Ça veut dire trésorier main vivant de l'UNESCO.
De l'UNESCO. Donc vous êtes aussi décoré par l'UNESCO.
Par l'UNESCO.
Ouais. D'accord. Oui. C'est très important pour les produits que vous mettez sur le marché. Oui.
Voilà. Bon, je suis maintenant à 30 ans d'expérience de la médecine traditionnelle. Et j'ai eu ça à mon père, et mon père a eu ça à son père. Donc pour moi, c'est 30 ans. Je l'ai amélioré après les dosages, parce qu'avant, la médecine traditionnelle n'avait pas les dosages. Les gens craignent de prendre ça parce que ça fait vomir, ça fait des diarrhées, il n'y a pas de dosage et tout ça.
D'accord.
J'ai amélioré tout ça là, mettre des dosages, faire ça en gélule, en comprimé, en tisane, en Lipton, à tout ce qui s'ensuit. Donc il y a beaucoup de dosages. Et je possède plus de 1000 recettes et 1000 médicaments d'inutiles.
D'accord. Donc vous avez une gamme de 1000 produits de médicaments naturels. Par exemple, qui concerne quelle maladie, par exemple?
Bon, qui concerne beaucoup de maladies, soit que le cancer est chronique, sinon j'ai traité beaucoup de maladies, mais j'ai pas un problème de l'oculaire, j'ai pas de problème des yeux, je connais pas ça.
D'accord.
Et j'ai pas de
tout ce qui est, par exemple, les reins, le système urinaire.
Tout ce qui est immuno. Tout ce qui est immuno.
Tout ce qui est immuno.
Oui.
Et vous êtes donc la plus grande entreprise dans ce domaine au Mali.
Bon, au Mali, tout le monde connaît Mouli Kafou, et comme on fait Taraba, qui est son nom indique, je suis le grand phytothérapeute du Mali.
Voilà. D'accord. Alors, en plus, donc, votre produit pourrait bien intéresser le consommateur russe. Ici en Russie, les gens aiment beaucoup les produits naturels, ils n'aiment pas trop les médicaments chimiques, ils aiment beaucoup le produit naturel. Par exemple, qu'est-ce que vous pensez essayer de commercialiser ici en Russie?
Bon, je suis là jusqu'à 72 heures. Moi, je t'ai donné rien à quoi de m'amener plus de 100 personnes que je vais donner les résultats qu'ils vont voir. Et s'ils s'acceptent, on va voir ça. Parce que moi, dit que moi, j'ai un bon produit, que je veux te dire que j'ai le bon produit, c'est faux. C'est le produit qui peut désigner son efficacité.
Voilà.
Voilà. J'ai le produit de prostate, le produit d'impuissance sexuelle, le produit d'éjaculation précoce, le produit des reins, et le produit de colon et de atal, le produit de diabète, le produit de tension, ça, je l'ai, sans hésiter. Mais je te mets en garde que beaucoup de vendent les produits pour les sexes, ils savent pas que le produit de diabète, quelqu'un qui a du diabète est à part. Le produit que quelqu'un qui a la tension est à part. Et le produit qui a des problèmes de neuromusculaires est à part. Donc, en médecine traditionnelle, on peut pas vendre un produit comme ça aux gens qui veulent prendre ça comme les autres. Non, c'est pas ça. C'est pas une pharmacie. Donc,
d'accord.
Il faut toujours essayer de voir et puis faire consulter d'abord avant de lui donner les produits.
C'est ça. D'accord. D'accord. Et par rapport à la situation de l'agriculture au Mali, elle est comment actuellement? Et est-ce qu'il y a des possibilités de trouver une coopération avec la Russie dans le domaine de l'agriculture?
C'est ce qu'on est en train de chercher. On est en train de chercher une coopération avec la Russie, que ce soit la médecine traditionnelle, l'agriculture, quel que soit tout le secteur est touché dedans. On cherche beaucoup de collaborations avec la Russie.
C'était Lassana Sidi Moulay Kafou, physiothérapeute malien et spécialiste de la médecine traditionnelle pour Spoutnik Afrique. Il a présenté les bienfaits de ses produits en vue de les exporter en Russie et espéré une coopération entre Bamako et Moscou dans de nombreux domaines. Mesdames, Messieurs, je vous confirme que vous écoutez Spoutnik Afrique sur Maliba FM, 99.5 FM à Bamako. Ici l'émission Zone de Contact présentée par Anthony Lefebvre. Je vous salue si vous venez tout juste de brancher votre poste de radio. Comment assurer la sécurité du continent africain? Alors que le conflit en Ukraine et entre Israël et la Palestine fait la une des médias, d'autres conflits dans le monde sont passés sous silence. Et l'Afrique n'échappe pas à la règle. Dans le Sahel, c'est la lutte contre le terrorisme qui pose problème. Trois pays ont uni leurs forces pour lutter contre ce fléau. Il s'agit du Mali, du Burkina Faso et du Niger qui ont formé l'Alliance des États du Sahel en septembre dernier. Au micro de Spoutnik Afrique, Rolf Stéphane Ngomat, président de l'Union Paix et Sécurité Africaine, a donné des pistes en faveur de la paix sur tout le continent africain. Écoutons-le tout de suite.
Commençons par la région du Sahel. Alors, comment voyez-vous la situation, l'évolution des conflits, de la sécurité, notamment la florisant encore une fois de mouvements terroristes et tout, suite au changement politique qu'il y a eu dans les trois grands pays du Sahel, à savoir le Mali, le Niger et le Burkina Faso?
Premièrement, je voulais d'abord rendre hommage ces victimes de guerre, ces victimes de barbarie qui sont morts, ces femmes, ces jeunes, ces grands hommes qui sont morts au combat. Je veux d'abord leur rendre hommage et leur dire que l'Afrique ne leur oublie pas. L'Afrique se rappelle de leur sacrifice ultime qu'ils ont fait. Concernant la situation au Sahel, c'est une situation regrettable, nous le constatons, mais nous avons l'espoir. Nous croyons que avec les changements qu'il y a eu, les militaires au pouvoir dans ces pays-là vont œuvrer pour la sécurisation de ces pays, mais ensemble avec des partenaires. Parce que l'Afrique ne peut pas se sécuriser seule. L'Afrique a besoin des partenaires. L'Afrique a besoin de faire la promotion de son potentiel. Et nous pensons que les Africains doivent s'approprier les processus de paix en Afrique. Et nous arriverons que si nous-mêmes nous approprions ces processus-là avec l'aide de nos gouvernements et l'aide de nos partenaires internationaux, nous pensons que l'espoir est possible et nous allons éradiquer ce terrorisme. Parce que ce terrorisme, le mouvement terrorisme dans le Sahel doit être éradiqué. Et nous œuvrons pour l'éradication de cela parce que nous vivons au 21e siècle. Ce sont des pratiques d'un autre âge que nous ne pouvons tolérer en Afrique et surtout dans la région du Sahel. Nous soutenons le peuple malien, le peuple nigérien, le peuple burkinabé dans leur effort à pacifier cette région et nous croyons qu'ensemble, avec l'apport de tous les pays africains, nous allons y arriver.
D'accord. Alors, dans cette situation où l'on voit encore une fois un déplacement des forces françaises après avoir été chassées du Mali vers le Niger, là elles sont chassées du Niger, elles se déplacent vers le Burkina Faso. Et donc dans cet état-là, dans cette situation-là de tension et tout, il y a une alliance qui s'est créée entre les trois pays du Sahel, justement, qui a le principal objectif, c'est de rétablir la sécurité dans les pays en mutualisant les moyens militaires, policiers et de renseignement. Comment est-ce que voyez-vous la chose et est-ce que ce retrait des forces françaises est quelque chose de bien pour les pays? Comme vous le disiez, les pays africains doivent s'approprier les processus de résolution du conflit et de stabilisation.
Nous croyons que les problèmes africains doivent être résolus par les Africains eux-mêmes. C'est d'abord ça le fondamental. Nous sommes la solution à nos propres problèmes. Et ces pays-là, en se mettant ensemble, c'est une bonne chose. C'est de ce que nous voulons, une Afrique intégrée, une Afrique qui parle d'une seule voix au concert des nations. Mais nous ne sommes pas contre les partenaires. Mais d'abord, la solution doit venir de nous-mêmes. Raison pour laquelle je salue cette initiative de ces trois pays à se mettre ensemble pour combattre le terrorisme. Et je pense qu'avec le concours des pays partenaires, nous y arriverons. Et je suis confiant que nous allons arriver et nous allons pacifier l'Afrique parce que nous croyons fermement que nous sommes des acteurs de la résolution de nos conflits. Nous ne devons pas être des spectateurs. Et le peuple africain prend en main ces processus de paix et de sécurité en Afrique. Le peuple africain veut s'approprier de ces processus et c'est salutaire. C'est une initiative salutaire. Et nous pensons que de là viendra une grande alliance qui va œuvrer pour la promotion de la paix et la sécurité dans la région du Sahel. Donc nous sommes d'accord avec cette initiative, mais nous ne disons pas que nous sommes contre des partenaires. Ce sont nos partenaires et nous devons travailler en adéquation avec ces partenaires pour pacifier l'Afrique.
D'accord. Donc vous, c'est-à-dire que d'abord vous mettez au début l'effort africain, afro-africain lui-même, mais c'est-à-dire, si j'ai bien compris votre propos, c'est que vous n'êtes pas contre vos partenaires, notamment européens ou américains, je suppose aussi russes et chinois, mais à condition, c'est-à-dire qu'ils apportent une aide dans le sens qui est décidé par les Africains eux-mêmes, avec la politique qui est définie par les Africains eux-mêmes, dans le but de pacifier leur pays.
Effectivement, telle est ma position sur la question, parce que je pense que nous devons être acteurs, en tant qu'Africains, nous devons être acteurs des processus de paix en Afrique. Et toute l'Afrique doit se réunir doit d'abord proposer des solutions et les partenaires viennent en appui de nos propres propositions, de nos propres solutions. Donc, eux, ils viennent simplement en appui pour appuyer ces processus-là. Mais l'initiative, la solution doit venir de nous-mêmes en tant qu'Africains. Telle est ma position et je pense que beaucoup partagent cette position-là.
D'accord. Alors, de ce point de vue, dans la région du Sahel, outre la question du terrorisme, qui est quelque chose encore qui s'est rajouté au conflit fratricide, ethnique, et ainsi de suite, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont toutes ces conditions-là qui s'imbriquent et qui créent ce climat d'instabilité dans la région?
Je pense que la première chose, c'est une question économique. Les causes de l'insécurité, les causes de la guerre, les causes des conflits en Afrique, c'est d'abord le problème de la pauvreté que nous devons résoudre. Parce que, comme on dit, il y a un dicton qui dit « un ventre affamé n'a point d'oreille ». Donc, quand quelqu'un a faim, ne peut pas se nourrir, il n'y a pas d'autres alternatives. Et la seule alternative qui s'offre à cette personne-là, c'est peut-être de prendre les armes, c'est peut-être d'aller combattre. Nous devons donc résoudre ce problème de pauvreté. Nous devons également résoudre le problème de l'emploi. Les jeunes Africains ont besoin de trouver de l'emploi. Les jeunes Africains ont besoin de s'autonomiser. Donc, on doit faire le transfert des compétences, on doit faire le transfert de potentiel, parce que l'Africain a du potentiel. Et on doit donc résoudre le problème à la base, qui est, comme je le disais tantôt, qui est l'éducation, qui est un problème majeur, qui est le problème également la pauvreté, le manque d'emploi. Tout ça là, ce sont des facteurs qui causent l'insécurité, qui causent des conflits entre les communautés et autres. Parce que une Afrique prospère, c'est une Afrique qui éradique la pauvreté. Et nous devons donc œuvrer sur ces causes-là pour prétendre avoir une Afrique paisible.
D'accord. Est-ce que ces conditions-là peuvent être peuvent faire une translation de ces problèmes que vous décrivez dans la région du Sahel à toutes les autres régions, par exemple la Corne de l'Afrique, le lac Tchad, l'Afrique centrale? Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, ce sont les mêmes causes qu'on retrouve un peu partout, des jeunes désœuvrés qui n'ont pas d'emploi, qui sont abandonnés à eux-mêmes. On a retrouvé les mêmes choses en Centrafrique. On a retrouvé les mêmes causes dans la région des Grands Lacs. On a retrouvé les mêmes causes dans la région du lac Tchad. Un peu partout en Afrique, c'est ce problème-là, ce manque d'éducation à la paix. Parce que nous devrions également, l'un de notre cheval de bataille, c'est d'œuvrer à ce qu'il y ait une éducation à la paix dès l'école primaire. Les jeunes Africains doivent être éduqués à la paix et faire de ces jeunes-là des ambassadeurs de la paix dans les communautés de base, dans leurs villages, dans leurs communautés, pour faire cette promotion de la paix. Et nous pensons que les causes profondes peuvent être éradiquées si on a des bonnes politiques, si on combat la corruption, si on combat la mauvaise gouvernance, si on combat toutes les vices, le clientélisme, toutes les vices qui font en sorte que l'Africain ne se sente pas à l'aise, l'Africain ne puisse pas trouver son bout de pain le lendemain. Et nous croyons que pour lutter effectivement contre ces problèmes-là, ces maux qui minent l'Afrique, il faut la bonne gouvernance, il faut une politique saine, il faut lutter contre des vices et il faut promouvoir l'intégration, le commerce africain. Les Africains doivent commercer entre eux, doivent faire la promotion de tout ce qui est aspect économique et développement durable. Je pense que une fois que les Africains, les jeunes Africains surtout, sont à l'aise, trouvent de l'emploi, on ne va plus parler de problèmes d'insécurité dans notre continent.
D'accord. Alors, vous avez assisté, nous sommes actuellement au forum Asia Expo, qui est un forum d'agriculture, et l'Afrique est connue pour ses potentialités énormes en termes d'agriculture. D'ailleurs, vous avez fait tout à l'heure une brillante intervention où j'ai retenu les chiffres que 60% des terres arables dans le monde se trouvent en Afrique, alors que l'Afrique ne participe que de 10% à la production agricole mondiale. C'est quoi le problème exactement et comment le résoudre et comment la coopération avec la Russie dans ce domaine, mais aussi dans celui de la sécurité, pourrait apporter un plus à l'Afrique?
Oui, effectivement, Je veux d'abord rendre hommage au gouvernement russe, également au peuple russe, pour leur hospitalité. Nous avons été bien accueillis ici-là et pour leurs efforts. Parce que la Russie, c'est un ancien partenaire de l'Afrique. Depuis les indépendances, à l'époque de l'Union soviétique, la Russie a aidé l'Afrique à se développer. On a eu des plans quinquennaux en Afrique sous le modèle russe. Et nous pensons que la Russie peut jouer un rôle majeur. La Russie, est, comme vous le savez, est membre du G20, donc un partenaire crédible. La Russie, est, comme vous le savez, est dans les BRICS, qui est une organisation des pays émergents. Et donc l'apport de la Russie pour le développement de l'Afrique est inestimable. Et nous comptons beaucoup sur ce partenariat-là, et surtout dans le domaine de l'agriculture. Et nous sommes donc venus au salon de l'agriculture ici à Sochi en Russie pour vendre l'Afrique. Parce que l'Afrique est une terre d'opportunités. L'Afrique est une terre d'avenir. Et l'Afrique est le berceau même de l'humanité. Donc une Afrique paisible veut dire un monde paisible. Une Afrique prospère veut dire un monde prospère. Donc le monde compte sur l'Afrique, tout comme l'Afrique compte sur le monde. Donc c'est un partenariat gagnant-gagnant. Et nous voulons œuvrer, nous faisons la promotion des partenariats gagnant-gagnant entre l'Afrique et le reste du monde, notamment la Russie et d'autres pays asiatiques. Parce que nous voulons que nous ayons ce partenariat gagnant-gagnant où les Africains dans ce partenariat se retrouvent, où il y a un boom économique, où il y a le transfert des technologies et il y a également la formation. Parce que nous voulons être formés aux innovations, aux sciences, aux technologies agricoles et dans d'autres domaines. Et nous voulons donc être en adéquation, nous voulons être en phase de notre ère. Parce que nous sommes au 21e siècle et il y a beaucoup de technologies qui se sont développées et nous pensons que grâce à l'apport de la Russie, des autres pays asiatiques, nous pensons que nous pouvons y arriver, nous pouvons développer et atteindre l'autosuffisance alimentaire. C'est ça notre objectif, atteindre l'autosuffisance alimentaire, permettre à quelqu'un qui est dans un village africain de se nourrir convenablement, éradiquer la famine en Afrique, éradiquer la pauvreté en Afrique, éradiquer tout ce qui est vice en Afrique et promouvoir les bonnes mœurs. Promouvoir le développement économique, promouvoir la prospérité. Mais cela est possible que par des partenariats publics-privés avec des entreprises du monde entier, des Russes, des Américains, des Chinois, des Indiens, des Brésiliens et autres. Cela n'est possible qu'avec ces entreprises. Donc, nous faisons un bain d'honneur, nous faisons la promotion des partenariats publics-privés, des partenariats privés-privés, des partenariats étatique entre États. Donc nous faisons cette comme cela. Nous pensons, nous croyons fermement que avec nos partenaires, nous allons créer cette Afrique que nous voulons, cette Afrique que nous appelons de tous nos voeux, qui est une Afrique intégrée, paisible et prospère.
Ben, Monsieur Ngoma, je vous remercie pour cet entretien et pour toutes ces informations et pour votre enthousiasme. J'espère que votre appel sera entendu et que l'Afrique trouve enfin le chemin de développement, comme vous le dites si bien, intégré, intense, interchangeable à l'intérieur, y compris avec les monnaies nationales africaines, et qui donnerait à l'Afrique sa place dans le concert des nations. Merci
bien
beaucoup.
Sûr. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie, et nous croyons fermement qu'avec tous nos partenaires, nous allons y arriver. C'est pour le bien du monde. L'Afrique a besoin du monde, le monde a besoin de l'Afrique, et ensemble, on va marcher vers de l'avant, et on va créer ce rêve africain que nous voulons tous, cet Ubuntu que nous voulons tous. Et nous voulons vraiment promouvoir ce partenariat. Et l'Afrique, je le répète, est la terre d'avenir. L'Afrique est une terre d'opportunités. Donc, à tous les investisseurs russes, tous les investisseurs chinois, tous les investisseurs de l'extérieur, tous nos partenaires, venez investir en Afrique et on sera dans le win-win situation, donc dans un partenariat gagnant-gagnant et tout le monde va se retrouver. Nos peuples seront contents et eux, les hommes d'affaires également seront contents parce qu'ils vont se faire de l'argent et l'Afrique bénéficiera de ces opportunités.
C'était Rol Stéphane Ngomat, président de l'Union Paix et Sécurité Africaine pour Sputnik Afrique. Il a donné des pistes visant à garantir la paix en Afrique, mais également comment la coopération avec la Russie pourrait y contribuer. Mesdames, messieurs, vous écoutez Spoutnik Afrique depuis Bamako sur les ondes de Maliba FM. Bienvenue à celles et ceux qui viennent de régler leur poste de radio sur le 99.5 FM. La région de Penza s'intéresse à l'Afrique. Les entreprises de cette région russe exportent leurs produits agricoles sur le continent africain, notamment au Bénin, en Angola et au Gabon. À Sotchi, le ministre de l'Agriculture de la région, Roman Kalentiev, avait fait le déplacement au Congrès international de l'agriculture Asia Expo. Il était sur place afin de présenter le potentiel agricole de la région et était à la recherche de nouveaux partenaires. Au micro de Spoutnik Afrique, il a fait le bilan des échanges commerciaux entre sa région et le continent africain. Écoutons tout de suite le ministre. Pouvez-vous nous parler des spécialités de votre région ?
La principale branche de production de notre région est l'agriculture. La région de Penza compte plus de 2 millions d'hectares de terres arables que nous cultivons. Nous y produisons principalement des céréales, du fourrage et de la betterave à sucre. Nous utilisons les cultures céréalières à la fois pour la production alimentaire et pour l'alimentation des volailles. Notre région est un grand producteur de viande d'Inde et le groupe D'Amaté, qui opère sur notre territoire, est l'un des 5 premiers producteurs mondiaux de viande d'Inde. Les cultures fourragères sont principalement utilisées pour l'élevage laitier. Nous produisons du lait, nous le transformons, nous fabriquons du sucre à partir de la betterave sucrière et nous le vendons dans toute la Fédération de Russie.
Et coopérez-vous avec les pays africains ?
Oui, nos entreprises fournissent leurs produits aux pays africains. Par exemple, la viande d'Inde est fournie à l'Angola, au Bénin, à la République du Congo, au Gabon, à la Guinée, au Libéria et à l'Afrique du Sud. Le volume des ventes croît d'année en année et je pense qu'il augmentera encore. Surtout que l'Afrique est un grand continent et qu'il y a encore beaucoup de pays où nos produits ne sont pas encore présents, mais je pense qu'ils le seront bientôt.
Est-ce que vous produisez de la viande halal ?
Tous nos produits qui proviennent de la dinde sont fabriqués selon les principes halal et disposent de tous les certificats nécessaires. C'est pourquoi nos partenaires du Moyen-Orient sont particulièrement heureux d'acheter nos produits.
Et comment les sanctions occidentales ont-elles affecté la situation alimentaire en Russie ?
La disponibilité des denrées alimentaires n'a en aucun cas été affectée par les sanctions. Au contraire, j'aimerais vous rappeler que les restrictions imposées en 2014 ont permis à l'industrie agricole et alimentaire de la Fédération de Russie d'augmenter considérablement ses volumes de production, d'améliorer la qualité de ses produits et de devenir compétitive sur les marchés mondiaux. Nous avons commencé à vendre et à fournir non seulement la Fédération de Russie, mais nous sommes également devenus le plus grand producteur de cultures céréalières au monde. Prenons les mêmes fromages qui, jusqu'en 2014, étaient principalement importés d'Europe. Aujourd'hui, nous produisons nous-mêmes des fromages à pâte dure et des fromages à moisissure. L'immense assortiment que l'on trouve aujourd'hui dans les rayons des magasins est entièrement produit dans la Fédération de Russie. Je pense donc que cela a donné une certaine impulsion aux producteurs russes pour apprendre et développer la gamme de produits que la Russie avait l'habitude d'acheter à l'étranger. Aujourd'hui, les volumes de production augmentent à un tel rythme que nous avons besoin de marchés extérieurs pour poursuivre le développement.
C'était Roman Kalentiev, ministre de l'Agriculture de la région de Penza pour Spoutnik Afrique. Il a fait le bilan des échanges commerciaux qui continuent de croître entre sa région et le continent africain. Enfin, il a rappelé que les sanctions contre la Russie n'ont en aucun cas affecté l'exportation des produits de la région de Penza. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, je vous rappelle que vous écoutez Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM sur le 99.5 FM à Bamako. Notre émission Zone de Contact présentée par Anthony Lefebvre se poursuit. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant. Plus de 44 pays d'Asie, d'Afrique et du Moyen-Orient ont participé au Congrès international de l'agriculture Asia Expo de Sotchi. Cette année a été marquée par la venue de délégations africaines, notamment du Mali, dont vous avez pu entendre certaines personnes dans nos émissions. Et cette arrivée du monde des affaires africains a été particulièrement remarquée par les organisateurs. Igor Milovanov, le chef de l'Asia Expo, l'a constaté. Au micro de mon collègue Kamal Louadj, il a fait le bilan de ce congrès. Il a ensuite exposé le potentiel de croissance des échanges commerciaux entre la Russie et les pays africains. Enfin, il a évoqué les possibilités qui peuvent être mises en place pour faciliter ces échanges commerciaux dans un contexte de sanctions contre la Russie et d'exclusion des banques russes du système de paiement SWIFT. Écoutons-le tout de suite.
Pensez-vous que le forum est un succès? Combien de participants et combien de contrats ont été signés? Plus de 44 pays ont participé au congrès. Il s'agit de pays d'Asie, d'Afrique et du Moyen-Orient, c'est-à-dire les pays membres de l'OCS, les BRICS. Nous avons signé des contrats pour plus de 3 milliards de roubles. Ici, nous avons beaucoup travaillé et recueilli énormément d'informations, pas seulement des données. Les délégations venaient d'Afrique, par exemple du Mali, du Sénégal, du Cap-Vert et d'Afrique du Sud, aussi du Burkina, du Kenya. Les délégations africaines comptaient une centaine de personnes à ma connaissance, et l'intérêt des entreprises russes est très élevé pour les produits que les délégations de ces pays ont apportés. Le stand collectif d'Afrique était composé de 10 stands qui nous offraient les produits qu'ils fabriquaient. Avec la délégation, nous nous sommes également rendus sur les stands des entreprises russes et nous avons provisoirement accepté d'exporter en Afrique, par exemple, des céréales et des préparations vétérinaires. Un contrat préliminaire a été conclu avec la compagnie Russie pour la fourniture de... Un contrat préliminaire a été conclu avec la compagnie Russie pour la fourniture de petits équipements au Mali. Voici une chose que je voulais noter. Ce sont des hommes d'affaires qui sont venus au forum avec une demande spécifique. Il y a déjà eu des arrangements spécifiques qui sont calculés sur le plan logistique pour commencer à coopérer plus étroitement. L'Afrique du Nord était également représentée, l'Algérie, l'Égypte. Je vois que le forum est très intéressant. La Russie a un grand potentiel en Afrique. Ma deuxième question est la suivante. Pensez-vous que le forum attirera plus de participants l'an prochain? Nous avons convenu de faire participer les ministères africains de l'agriculture et le ministère russe de l'agriculture pour attirer les entreprises. Nous allons travailler avec les associations africaines. Par conséquent, le nombre de stands d'exposition augmentera. Il y a des demandes spécifiques des délégations africaines pour la fourniture de produits pour lesquels nous allons attirer des entreprises russes. En général, les entreprises russes peuvent satisfaire tous les besoins qui existent. Désormais, il y a beaucoup de sanctions contre la Russie. Que disent les Africains? Est-il possible de faire des affaires dans ces conditions-là? Oui, bien sûr, ces questions ont été soulevées pendant de nombreuses années et il existe déjà plusieurs façons d'interagir avec les pays africains, y compris par l'intermédiaire de pays tiers, minimisant ainsi les coûts de transaction. Au Congrès, plus de 100 accords ont été signés et par 200 entreprises à hauteur de 3 milliards de roubles. Certains d'entre eux sont des pays africains, mais il y a aussi l'Asie, la Chine, la Turquie, l'Iran. Nous prévoyons d'établir des relations avec des pays comme le Pakistan, en Asie du Sud-Est, la Malaisie, l'Indonésie et le Vietnam. L'année prochaine, on a déjà réservé plus de 80% des stands et nous allons la possibilité d'agrandir la zone. Aujourd'hui, elle est de 12 km carrés. L'année prochaine, elle sera de moins 24 km carrés. Parmi les secteurs exposants figureront l'élevage, l'aviculture, l'élevage porcin, les machines agricoles, etc. L'Inde a déjà acheté 20 stands pour cela. La Chine prévoit également de doubler le nombre de stands, car elle a signé environ 60 contrats.
C'était Igor Milovanov, chef du Congrès international de l'agriculture Asia Expo de Sochi. Il a fait le bilan de l'édition 2023 qui vient de s'achever. Celle-ci a été marquée par la présence de nombreuses délégations africaines. Enfin, il s'est exprimé sur les possibilités d'élargissement des échanges commerciaux entre la Russie et le continent africain avant d'évoquer les préparatifs pour la prochaine édition qui ont déjà commencé. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, Spoutnik Afrique, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, Anthony Lefebvre, je vous retrouverai très vite pour un nouveau numéro de mon émission Zone de Contact. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Maliba FM, à vous l'antenne.
Suivez Spoutnik Afrique sur Maliba FM. Du lundi au vendredi à 19h, Spoutnik décryptera l'actualité africaine et internationale dans ses émissions Zone de Contact et Afrique en Marche. Politique, économie, défense, diplomatie. Des spécialistes de renom vous donneront une vision alternative à celle proposée par les médias mainstream. Du lundi au vendredi à 19h sur Maliba FM.
Zone de Contact, une émission de Spoutnik Afrique.